les problèmes ont commencé. Les problèmes ont commencé dans l'usine où tu travaillais. J'ai raconté dans mon premier roman On finira avec Eddie Bellegueule. Un après-midi, nous avons reçu un appel de l'usine pour nous prévenir qu'un poids était tombé sur toi. Ton dos était broyé, écrasé. On nous a dit que tu ne pourrais plus marcher pendant plusieurs années. Plus marcher. Les premières semaines, tu es resté complètement au lit, sans bouger. Tu ne savais plus parler. Tu ne pouvais plus que crier. C'était la douleur. Elle te faisait te réveiller la nuit et crier. Ton corps ne pouvait plus se supporter lui-même. Tous tes mouvements et tes déplacements les plus minuscules réveillaient tes muscles ravagés. Tu prenais conscience de l'existence de ton corps, dans la douleur, par elle. Et puis, la parole est revenue. Au début, c'était seulement pour demander de la nourriture et à boire. Et avec le temps, tu as recommencé à faire des phrases plus longues, à exprimer des désirs, des envies, des colères. La parole ne remplaçait pas la douleur. Il ne faut pas se tromper là-dessus. Il faut dire les choses. La douleur n'a jamais disparu. Tu te levais tôt le matin et tu allumais la télé en même temps que ta première cigarette. J'étais dans la chambre à côté, l'odeur du tabac et le bruit arrivaient jusqu'à moi comme l'odeur et le bruit de ton être. Les gens que tu appelais tes copains venaient boire du pastis à la maison en fin d'après-midi. Tu regardais la télé avec eux. Tu allais les voir de temps en temps, mais le plus souvent à cause de tes douleurs au dos, à cause de ton dos broyé par l'usine, de ton dos broyé par la vie qu'on t'avait contraint à vivre, pas par ta vie. Ce n'était pas ta vie à toi. Ta vie à toi, justement, tu ne l'avais jamais vécue. Tu as vécu à côté de ta vie. À cause de tout ça, tu restais à la maison. Et c'était plutôt eux qui venaient. Toi, tu ne pouvais plus bouger. Ton corps te faisait trop mal. En mars 2006, le gouvernement de Jacques Chirac, président de la France pendant 12 ans, et son ministre de la Santé, Xavier Bertrand, ont annoncé que des dizaines de médicaments ne seraient plus remboursés par l'État, dont en grande partie des médicaments contre les troubles digestifs. Comme tu devais rester allongé toute la journée depuis l'accident que tu avais et que tu avais une mauvaise alimentation, les problèmes de digestion étaient constants pour toi. Acheter des médicaments pour les réguler devenait de plus en plus difficile. Jacques Chirac et Xavier Bertrand te détruisaient les intestins. Pourquoi est-ce qu'on ne dit jamais ces noms dans une biographie? En 2007, Nicolas Sarkozy, candidat à l'élection présidentielle, mène une campagne contre celles et ceux qu'il appelle les assistés et qui, selon lui, volent l'argent de la société française parce qu'ils ne travaillent pas. Il déclare « Le travail, voit l'assisté s'en tirer mieux que lui pour boucler ses fins de mois sans rien faire. » Il te faisait comprendre que si tu ne travaillais pas, tu étais en trop dans le monde. Un voleur, un surnuméraire, une bouche inutile, aurait dit Simone de Beauvoir. Il ne te connaît pas. Il n'a pas le droit de penser ça. Il ne te connaît pas. Ce genre d'humiliation venue des dominants te fait ployer le dos encore plus. En 2009, le gouvernement de Nicolas Sarkozy et son complice Martin Hirsch remplacent le RMI, un revenu minimum versé par l'État français aux personnes sans travail, par le RSA. Tu touchais le RMI depuis que tu ne pouvais plus travailler. Le passage du RMI au RSA visait à favoriser le retour à l'emploi, comme le disait ce gouvernement. La vérité, c'était que dorénavant, tu étais harcelé par l'État pour reprendre le travail, malgré ta santé désastreuse, malgré ce que l'usine t'avait fait. Si tu n'acceptais pas le travail qu'on te proposait, ou plutôt qu'on t'imposait, tu allais perdre ton droit aux aides sociales. On ne te proposait que des emplois à mi-temps, épuisants, physiques, dans la grande ville, à 40 km de chez nous. Payer l'essence pour faire l'aller-retour tous les jours t'aurait coûté 300 euros par mois. Au bout d'un certain temps, pourtant, tu as été obligé d'accepter un travail de balayeur dans une autre ville, pour 700 euros par mois. Penché toute la journée à ramasser les ordures des autres, penché alors que ton dos était détruit. Nicolas Sarkozy et Martin Hirsch te broyaient le dos. Tu avais conscience que pour toi, la politique était une question de vie ou de mort. Un jour, en automne, La prime de rentrée scolaire qui était versée tous les ans aux familles pour les aider à acheter des fournitures, des cahiers, des cartables, avait été augmentée de presque 100 euros. Tu étais fou de joie. Tu avais crié dans la maison « On part à la mer !» Et on était partis, assises, dans notre voiture. De 5 places, j'étais monté dans le coffre, comme un otage dans un film d'espionnage. C'était ce que je préférais. Toute la journée avait été une fête. Chez ceux qui ont tout, je n'ai jamais vu de famille aller voir la mer pour fêter une décision politique. Parce que pour eux, la politique ne change presque rien. Je m'en suis rendu compte quand je suis allé vivre à Paris, loin de toi. Les dominants peuvent se plaindre d'un gouvernement de gauche. Ils peuvent se plaindre d'un gouvernement de droite. Mais un gouvernement ne leur cause jamais de problème de digestion. Un gouvernement ne leur broie jamais le dos. Un gouvernement ne les pousse jamais vers la mer. La politique ne change pas leur vie, ou si peu. Ça aussi, c'est étrange. C'est eux qui font la politique alors que la politique n'a presque aucun effet sur leur vie. Pour les dominants, le plus souvent, la politique est une question esthétique. Une manière de se penser. Une manière de voir le monde, de construire sa personne. Pour nous, c'était vivre ou mourir. En août 2016, sous la présidence de François Hollande, Myriam El Khomri, la ministre du Travail, soutenue par le Premier ministre Manuel Valls, fait adopter la loi dite loi Travail. Cette loi facilite les licenciements et permet aux entreprises de faire travailler les salariés plusieurs heures de plus par semaine, en plus de ceux qu'ils travaillent déjà. L'entreprise pour laquelle tu balayais les rues pouvait te demander de balayer encore plus, de te pencher encore plus longtemps chaque semaine. Ton état de santé aujourd'hui, tes difficultés à te déplacer, tes difficultés à respirer, ton incapacité à vivre sans l'assistance d'une machine viennent en grande partie d'une vie à faire des mouvements automatiques à l'usine, puis à te pencher 8 heures de suite, tous les jours, pour balayer les rues, pour balayer les ordures des autres. Hollande, Valls, El Khomri t'ont asphyxié. Pourquoi est-ce qu'on ne dit jamais ces noms ? 27 mai 2017, dans une ville de France, deux syndicalistes, ils portent tous les deux un t-shirt. Deux hommes interpellent au milieu d'une rue le président français, Emmanuel Macron. Ils sont en colère, leur manière de parler le fait comprendre. Ils ont l'air de souffrir aussi. Emmanuel Macron leur répond, la voix pleine de mépris. « Vous n'allez pas me faire peur avec votre t-shirt ! » La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. Il renvoie ceux qui n'ont pas les moyens de se payer un costume à la honte, à l'inutilité, à la fainéantise. Ils actualisent la frontière violente entre les porteurs de costumes et les porteurs de t-shirts. Les dominés et les dominants, ceux qui ont l'argent et ceux qui ne l'ont pas, ceux qui ont tout et ceux qui n'ont rien. Ce genre d'humiliation venue des dominants te fait ployer le dos encore plus. Septembre 2017, Emmanuel Macron accuse les fainéants qui, en France, selon lui, empêchent les réformes. Tu sais depuis toujours que ce mot est réservé aux gens comme toi, à ceux qui n'ont pas pu, ne peuvent pas travailler, parce qu'ils vivent trop loin des grandes villes, qui ne trouvent pas de travail, parce qu'ils ont été chassés trop tôt du système scolaire, sans diplôme, à ceux qui ne peuvent plus travailler parce que la vie à l'usine leur a broyé le dos. On ne dit jamais fainéant pour nommer un patron qui reste toute la journée assis dans un bureau à donner des ordres aux autres. On ne le dit jamais. Quand j'étais petit, tu répétais obsessionnellement « Je ne suis pas un fainéant !» Parce que tu savais que cette insulte planait au-dessus de toi, comme un spectre que tu voulais exorciser. Il n'y a pas de fierté sans honte. Tu étais fier de ne pas être un fainéant parce que tu avais honte de faire partie de ceux qui pouvaient être désignés par ce mot. Le mot fainéant est pour toi une menace, une humiliation. Ce genre d'humiliation venue des dominants te fait ployer le dos encore plus. Ces noms que je prononce depuis tout à l'heure, peut-être que ceux qui me liront ou m'entendront ne les connaissent pas, peut-être qu'ils les ont déjà oubliés ou qu'ils ne les ont jamais entendus, mais c'est justement pour ça que je veux les prononcer. Parce qu'il y a des meurtriers qui ne sont jamais nommés pour les meurtres qu'ils ont commis, il y a des meurtriers qui échappent à la honte grâce à l'anonymat ou grâce à l'oubli. J'ai peur parce que je sais que le monde agit dans l'ombre et dans la nuit. Je refuse qu'ils soient oubliés. Je veux qu'il soit connu maintenant et pour toujours, partout, au Laos, en Sibérie et en Chine, au Congo, en Amérique, partout à travers les océans, à l'intérieur de tous les continents, au-delà de toutes les frontières. Est-ce que tout finit toujours par être oublié ? Je veux que ces noms deviennent aussi inoubliables qu'Adolphe Thiers, que Richard III, de Shakespeare ou que Jacques l'Éventreur. Je veux faire rentrer leurs noms dans l'histoire par vengeance. Août 2017, le gouvernement d'Emmanuel Macron retire 5 euros par mois aux Français les plus précaires. Il retire 5 euros par mois sur les aides sociales qui permettent aux plus pauvres en France de se loger, de payer un loyer. Le même jour, ou presque, peu importe, il annonce une baisse des impôts pour les personnes les plus riches de France. Il pense que les pauvres sont trop riches et que les riches ne sont pas assez riches. Son gouvernement précise que 5 euros, ce n'est rien. Ils ne savent pas. Ils prononcent ces phrases criminelles parce qu'ils ne savent pas. Emmanuel Macron t'enlève la nourriture de la bouche. Hollande, Valls, El Khomri, Hirsch, Sarkozy, Macron, Bertrand, Chirac. L'histoire de ta souffrance porte des noms. L'histoire de ta vie est l'histoire de ces personnes qui se sont succédées pour t'abattre. L'histoire de ton corps est l'histoire de ces noms qui se sont succédés pour le détruire. L'histoire de ton corps accuse l'histoire politique.